Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour, bonjour Mireille. Est-ce que tu savais taper à la machine comme, cette personne qu'on ignore, dont on ignore l'identité, mais dans le générique, c'est quand même un peu...
Voilà, et puis c'est aussi, c'est un extrait d'un film où c'est Jerry Lewis.
C'est Jerry Lewis.
Qui tape à la machine à écrire. Alors après, ils en ont fait aussi des sketchs hein, dans des orchestres symphoniques et tout ça. On voyait un mec arriver qui posait sa machine à écrire et qui, voilà.
C'est ça. Bah, ça avait plus de charme que le clavier de l'ordinateur. Hein. Bah, c'est ça.
Mais
musical.
C'est vrai que j'ai appris dans mon jeune temps. C'est ma formation initiale. De dactylo.
Ah, ça rend un peu nostalgique, hein, avec la petite sonnette en fin de
voilà,
ligne.
C'est ça, voilà. C'est
quand même pas mal au niveau musical. Voilà.
Mais bon, c'est bien utile aussi pour taper sur l'ordinateur. C'est le même clavier.
Hein, AZERTY. Voilà, ça, c'était pas prévu, mais je me dis, tiens, j'ai jamais demandé à Mireille pourquoi ce générique.
Si, d'ailleurs, je me rappelle de mes débuts où le soir, quand je me couchais, je rêvais que je tapais à la machine.
Quel rêve!
Pareil pour la sténo. Alors, comme tous les ans, pour cette émission d'avant Noël...
Numéro 60.
Voilà, nous allons vous proposer quelques textes et lettres aussi d'écrivains. Alors, nous allons commencer par un auteur qu'on redécouvre un peu aujourd'hui, qui s'appelle Michael McDowell. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite... c'est le prologue hein, d'un livre qui s'appelle « Les aiguilles d'or ». Et donc là, le prologue, tout se passe le 31 décembre. Et ça met en place les personnages de l'histoire. Donc c'est une histoire un peu sombre, mais voilà, je trouvais que c'était...
joli titre.
Que c'était pas mal. Alors je vous propose d'écouter ça. Et puis, on reparle après un peu de Michael McDowell. Par une sombre nuit d'hiver, sept enfants se blottissaient près d'une grille de ventilation sur Mulberry Street. Chacun à leur tour, pendant environ une minute, ils s'asseyaient directement sur la grille en fer pour profiter de la vapeur qui s'échappait de la chaudière des locaux de la police de New York. À peine vêtus de haillons informes et répugnants, le visage et toutes les parties à nu noircies par la crasse, ils semblaient dans cette ruelle obscure n'être que des ombres chétifs, une assemblée de gobelins dégénérés. Une stridente dispute éclata parmi eux pour savoir si l'une des filles, qui portait dans ses bras un nourrisson à la respiration sifflante, avait le droit de rester plus longtemps sur la grille. Mais avant que les chamailleurs n'aient le temps de se mettre d'accord, leur querelle fut noyée dans le soudain carillon de toutes les cloches de la ville. L'an de grâce 1881 devenait l'an de grâce 1882. Non loin de là, dans la cave d'un bâtiment pourrissant de Grand Street, se trouvait un bouge qui servait une bière chaude, un lieu tellement infâme qu'il ne se distinguait même pas par son nom. Les hommes et les femmes qui s'y trouvaient, des pauvres, des déchus, des criminels, des souffreteux, venaient y consommer la bière éventée que les établissements de Mulberry Street avaient jugée trop mauvaise pour être servie la nuit précédente. Les clients buvaient sans se plaindre jusqu'à devenir insensibles au froid extérieur et à leur détresse intérieure. L'endroit était tenu par un noir muet qui servait toute la nuit cet alcool dans de grandes tasses en céramique que personne n'avait jamais lavées. Dans cet espace confiné, qu'un petit feu de charbon ne servait qu'à saturer d'une fumée suffocante sans réchauffer personne. Les hommes pestaient contre Dieu, les femmes qui les avaient trompés, les autorités qui les avaient emprisonnés, la machine démocrate qui avait échoué à leur apporter la liberté, et contre tout ce qui traversait leur esprit embrumé. Les femmes, qui trouvaient pour la plupart le soulagement dans les méthodes, s'étaient pelotonnées dans des coins sombres où étaient assises, la tête appuyée contre les murs suintants et glacés. L'achat de deux bières à un cent pièce leur donnait le privilège de rester jusqu'au lever du soleil. Des gamins en guenilles se battaient sous les tables tandis que le singe du joueur d'orgue de Barbarie, tuberculeux, sautillait d'un client à l'autre, sur le hargneux comme le comateux, sans distinction, ajoutant ses piailleries perçantes à l'impénétrable fatras des voix. Deux hommes maussades, libérés de Backwell's Island le matin même, jouaient de l'argent près de l'entrée. Une brève interruption dans la valse de leurs cartes poisseuses, au moment où les cloches se mirent à sonner, fut la seule attention que l'on accorda à la nouvelle année dans ce triste lieu. Non loin de là, dans la cave d'une maison sur Mort Street, trois femmes en robe rayée et au sourire extatique initiaient une amie timorée au mystère de l'opium. La novice gloussa en plongeant l'extrémité plane du yen hoc qu'elle avait d'abord pris pour une aiguille à tricoter dans la substance goudronneuse avant de l'exposer à la flamme d'une petite lampe verte en verre. Elle jeta un coup d'œil aux rêveurs impassibles qui l'entouraient, dont seule la moitié était chinois, et murmura nerveusement à ses amis. Vous êtes sûr qu'on ne risque rien ici ? Quand les cloches annonçant la nouvelle année pénétrèrent dans cette pièce bondée, enfumée et silencieuse, elles étaient absorbées par une centaine de songes alanguis, une centaine de visions de bleu et de gris. Un quart d'heure avant, sur West Houston Street, de l'autre côté du commissariat, perpendiculaire à Mort Street et à ses païens, un cabriolet avait fait halte devant une banale façade de briques, et un visage voilé, encadré d'une chevelure d'un noir de jais, avait observé la rue d'un air soucieux. Le chauffeur confirma l'adresse à sa passagère, mais repartit avant qu'elle n'ait réussi, après quelques petits coups timides, à entrer dans la maison. « C'est Maggie qui m'envoie, » murmura-t-elle à la femme aux vêtements et aux traits sévères qu'elle lui avait ouverts. La dame voilée était une actrice qui, une demi-heure plus tôt, avait été acclamée pour sa performance dans Ada, Girl Scout de la Sierra, où elle interprétait l'héroïne éponyme au Théâtre National de Beverly Street. Au pied des escaliers obscurs, l'actrice hésita. Puis une autre jeune femme, une jolie blonde vêtue d'une chatoyante robe rouge, apparut sur le palier au-dessus d'elle et, agitant sa chandelle, lui fit signe d'avancer avec des paroles rassurantes. « C'est toi, Dolly ! « Quels beaux cheveux, ils sont magnifiques !» L'actrice était maintenant allongée sur un lit en fer dans une minuscule pièce au troisième étage de cette demeure silencieuse. Elle agrippait et tordait la fine couverture dans son agitation. Tout en chantonnant avec insouciance, la jolie blonde ferma les fins rideaux de la fenêtre et rajouta du charbon au petit feu qui brûlait dans l'âtre. Elle se retourna gracieusement vers l'actrice et lui demanda d'un ton joyeux si le laudanum faisait son effet. La réponse de l'actrice à l'avorteuse se perdit dans le bruit des cloches du nouvel an. Pas si loin de cette demeure silencieuse, où la jolie blonde en robe rouge exerçait sa lucrative activité, se trouvait Beverly Street, bondée de fêtards, même s'ils ne paraissaient pas beaucoup plus nombreux ce samedi soir que n'importe quel autre. Des vendeurs de friands à la viande, d'épis de maïs grillés et d'huîtres fraîches hurlaient encore plus fort que les noceurs, tandis que se déversaient depuis quelques fenêtres les accords de nouveaux morceaux, martelés sur de vieux pianos défoncés. La folle musique des orchestres allemands, alternée avec les bang-bang des stands de tir à la carabine et les voix éraillées des mendiants estropéés ou aveugles, échouaient sur les trottoirs. Des garçons qui travaillaient dans des librairies pour 8 dollars la semaine jouissaient de la galante compagnie de jeunes modistes, mais se faisaient snobber par les vendeurs des beaux magasins qui gagnaient 1000 dollars par an, logés dans des pensions à l'ouest de Manhattan et étaient venus sur Bowery avec les filles de l'horlogeuse. Les familles italiennes se baladaient d'un pas fier dans les rues, les plus au sud de quartier, ne faisant demi-tour que lorsqu'ils rencontraient leur pendant allemand au niveau de Lower East Side. Les vendeurs de journaux et les cireurs de chaussures, des gamins souvent maigrelets avec un cigare à la bouche et jamais assez protégés du froid, paraissaient au coin des rues, s'amassaient à l'entrée des théâtres de variété ou se précipitaient pour assister à une bagarre censée avoir lieu un peu plus loin. Quand les cloches annoncèrent le nouvel an, la musique, les centaines d'exclamations et de cris, les milliers de conversations joyeuses et bruyantes qui retentissaient dans tout le quartier, fusionnèrent et s'intensifièrent en une grande clameur célébrant la fin d'une année et le début d'une autre. Moins d'un kilomètre à l'ouest, devant l'hôpital récemment construit sur la 15e rue, une jeune femme aux vêtements ternes et pudiques marchait bras dessus, bras dessous avec sa petite sœur, écolière vêtue d'une robe vert vif, d'une veste rouge garnie de fourrure et d'un chapeau rond avec des rubans en feutre qui pendaient derrière. En arrivant en vue des lampadaires de Satin Circus sur la 6e avenue, elles se séparèrent. L'aînée se glissa dans le renfoncement en briques d'un bâtiment d'angle et l'écolière se mit en évidence dans la lumière crue de l'avenue et regarda autour d'elle d'un air hésitant. Elle examina le visage des passants quelques instants et tira finalement sur la manche d'un homme d'âge moyen dont le pas avait ralenti à son approche. « Monsieur, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix plaintive et aiguë, « j'ai perdu ma sœur. Pouvez-vous m'aider à la retrouver ?» Les cloches du nouvel an sonnèrent, et elle n'avait pas fini que les collières et le gentleman se dirigeaient vers une chambre de Greenwich Avenue où l'enfant croyait encore que sa grande sœur pouvait l'attendre. Mais la femme aux vêtements ternes sortit de sa cachette et continua seule son monotone circuit. Presque à portée de voix de l'agitation de Satin Circus, au premier étage d'une vieille maison de maître, deux hommes discutaient à voix basse, le dos tourné au feu qui brûlait dans une cheminée de marbre sculpté. Le plus âgé était grand et imposant, avec des cheveux blancs et des yeux bleus perçants. Son compagnon était beau et jeune, avec des cheveux bruns et courts et une barbe épaisse. Ils étaient beau-père et gendre et passaient la dernière soirée de l'année dans le club fréquenté par des avocats et des juges républicains. L'horloge derrière eux sonna minuit. Ils se retournèrent alors, qu'au même instant les cloches de l'église de l'autre côté de la rue entamaient leur carillon festif. Les deux hommes se serrèrent la main, puis se dirigèrent vers le centre de la pièce. La dizaine d'autres républicains qui se trouvaient là se détournèrent de leurs journaux ou de leurs conversations et se levèrent. Ils échangèrent des poignées de main, mirent en place leur sourire de circonstance et souhaitèrent le meilleur à leurs confrères. Le vieil homme, à l'issue d'un bref discours, exprima sa certitude de voir les démocrates chassés du pouvoir au cours de cette année 1882 et privés de la moindre influence dans la ville. Sur la 5e avenue et du côté de toutes les grandes places huppées de l'Upper Manhattan, où les hommes et leurs épouses continuaient de se promener, les cloches retentirent dans la nuit froide avec une clarté et une beauté particulières. Tout le monde s'arrêta et se mit à sourire avec bienveillance aux inconnus qui se trouvaient à proximité. Quand les hommes eurent soulevé leurs chapeaux et les dames adressé d'une voix douce et distinguée leurs meilleurs vœux pour l'année à venir, tous reprirent le chemin de leur maison. Dans l'hôtel de la 5e avenue, la direction avait fait préparer un dîner d'exception. À 23h30, quand on ouvrit les portes de la salle à manger, quelques 300 invités chargèrent et furent installés comme on put autour d'une trentaine de tables de 12 couverts chacune. Une duchesse anglaise se retrouva à côté d'un gentleman qui se vantait d'avoir tué 17 Indiens séminoles sur les rives du lac Okeechobee et face à une dame qui défendait l'amour libre. Le fils de la duchesse, également titré, conversait avec un escroc qui avait perdu son œil droit après s'être fait tirer dessus par la police mexicaine. À minuit, 30 serveurs apparurent, portant chacun un plateau avec un cochon de lait rôti encore fumant. Un sénateur américain leva sa coupe de champagne pour célébrer la nouvelle année et fut accompagné par un chœur babélien d'accent et de langue. À quelques rues de là, à la fenêtre du premier étage d'une petite tranche de maison, qui donnait sur la tristesse grisade de Gramsci Park, se tenait une femme en robe de chambre, son visage vivement éclairé par une chandelle vacillante posée sur la pluie. Elle avait un bras levé et tripotait les rideaux avec impatience. Elle regardait passer les hommes sur le trottoir en contrebas, comme si elle en guettait un en particulier. Pile au moment où les cloches de l'église épiscopalienne de la 4e avenue fêtaient l'année à venir, un jeune homme au rasage impeccable arriva de la 3e avenue d'un pas pressé, un grand sac de cuir noir à la main. Il leva les yeux vers la fenêtre, fit signe à la femme qui s'y tenait et monta hâtivement les marches. Elle disparut de l'ouverture et quelques instants plus tard ouvrit la porte pour faire entrer son coiffeur tant attendu. Pour la mère irlandaise qui errait dans le quartier de Battery Park et dont le nourrisson venait de périr dans ses bras, pour le boucher italien qui venait de vendre son dernier morceau de viande de cheval avarié au squatteur du terrain vague au-dessus de la 80e rue, et pour tous ceux entre les deux, pour les pauvres dont la pauvreté était telle qu'ils en mourraient bientôt, pour les criminels dont les actes n'offraient aucune garantie contre la misère à laquelle ils essayaient d'échapper, pour les gens relativement prospères et modérément respectables, pour les gens modérément prospères et particulièrement respectables, et pour les très riches qui n'avaient pas besoin de se soucier de leur respectabilité, l'an de grâce 1882 venait de débuter.
Et voilà.
Oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changent, finalement, d'une époque à l'autre. Alors, je te disais, pendant qu'on écoutait la lecture, le début, ça me fait vraiment penser à une poésie de Rimbaud, qu'on a entendu, Les Effarés. Je résiste pas à l'envie de dire le début de cette poésie. « Noir dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leur cul en rond, à genoux, cinq petits, misère, regarde le boulanger faire le lourd pain blond. » Ça, on est un peu dans l'esprit, McDowell.
On pense à ça, effectivement. Alors, je vous fais juste un petit résumé du livre, qui est un pavé, un peu, là, voilà. Donc, en l'an de grâce 1882, New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Et dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Donc, avec l'aide de son fils Edward, qui est un pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et aussi de son gendre Duncan, un jeune avocat promis à un brillant avenir. Donc le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Voilà. Et donc il va se passer tout un tas de choses.
Pas les chancres, c'est les Shanks.
Alors Michael Dowell, lui, il est né donc le 1er juin 1950 à Enterprise en Alabama et il est décédé le 27 décembre 1999 à Boston, dans le Massachusetts. Alors il est écrivain, scénariste, il est notamment connu pour avoir écrit l'histoire et le scénario du film Beetlejuice de Tim Burton. Il a également écrit sous plusieurs noms de plume, comme Axel Young, Nathan Aldine, Preston McAdam ou encore Mike McRae.
Très bien. Voilà. Alors Beetlejuice, pour rappel, ça signifie jus de coléoptère. C'est... ça va bien avec Tim Burton.
Alors, pour la petite histoire, McDowell, c'était aussi un grand collectionneur d'objets liés à la mort. Alors, sa collection, qui était vaste et variée, comprend plus d'une 76 boîtes qui incluent des pièces telles que des broches mortuaires, des photographies et des plaques provenant de cercueils de nourrissons. Après sa mort, la collection a été acquise par l'Université Northwestern de Chicago, où elle est exposée depuis 2013. Et donc sa riche correspondance, ainsi que tous ses manuscrits, sont archivés à la Bowling Green State University dans l'Ohio. Alors il a été diagnostiqué comme étant atteint du sida en 1994, et il décède donc le 27 décembre 1999, des suites donc d'une maladie liée au sida. Donc il a notamment écrit la saga Blackwater, Lune froide sur Babylone, Cauchemar de sable, Les aiguilles d'or, Cathy, et ainsi que quelques nouvelles et plein d'autres. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste parce que ça va être... donc voilà.
Voilà, concernant, alors tu as parlé Mireille de Beetlejuice, et là en 2024, il y a... un film qui est sorti, Beetlejuice, qui serait la suite du film original dont tu as parlé. Oui. Donc c'est toujours des histoires fantastiques de fantômes avec Tim Burton. Oui.
Et d'ailleurs, il avait eu il avait été nominé hein, pour le scénario de
oui,
Beetlejuice.
Tout à fait.
Donc et puis aussi il avait fait l'étrange Noël de Mr Jack.
Ça c'est plus connu. Ça, voilà. Pour la télé aussi
Oui, oui, il a écrit
Hitchcock,
pas mal d'Hitchcock.
Alfred Hitchcock, présent.
Histoire fantastique, etc., etc. Alors là, on va passer à un tout autre genre. Et donc, c'est une lettre écrite par Louis-Ferdinand Céline en janvier 1953. Donc, lettre qu'il écrit à son éditeur, Gaston Gallimard. Alors, on va entamer c'est assez court, hein, toutes les lettres là qu'on va écouter. Donc, je vous propose d'écouter donc cette lettre.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Gaston Gallimard, du 1er janvier 1953.
Mon cher éditeur et ami, vous devez recevoir en ce jour l'hommage de bien fervents vœux de bonne santé, longue vie et prospérité. Tous ces vœux sont, je n'en doute pas, sincères, très sincères, mais nul plus sincère que les miens. Au point qu'à la date du 1er février prochain, c'est-à-dire dans 31 jours, je vais vous demander une avance d'1 million de francs, pour que mon année à venir ne devienne point trop tragique matériellement. Je téléphonerai à M. Huguemin vers le 15 janvier à ce propos. Le tome 2 de Féerie avance, en voilà bientôt 300 pages tapées, prêtes à imprimer, mais il en faut 700 à 800, fignolées, bien entendu. Et ce labeur me prend mes jours et mes nuits. Ah, si j'étais payé au prix des femmes de ménage, il me semble que je pourrais racheter le château de la Muette. Mais je n'ai pas de femme de ménage et je n'ai pas de feu. Alors, qu'allez-vous faire de ce million, me demanderez-vous? M'acheter du Véronal, entre autres, pour dormir, pas trop, sans excès, quelques heures. Et votre bien respectueux Louis-Ferdinand Destouches.
Oui, j'ai essayé de prendre le ton célinien un peu.
Alors, Louis-Ferdinand Destouches, donc plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, ou tout simplement Céline, hein, voilà. Il est né le 27 mai 1894 à Courbevoie et décédé le 1er juillet 1961 à Meudon. Alors, il est écrivain, médecin, mais aussi, hélas, collaborateur français.
Hélas.
Alors, il est notamment célèbre pour « Voyage au bout de la nuit », publié en 1932 et récompensé par le prix Renaudot la même année. Alors Céline est connu pour son antisémitisme et sa collaboration active avec l'occupant nazi. Il va même jusqu'à publier des pamphlets virulents dès 1937 et sous l'occupation, durant la Seconde Guerre mondiale, il écrit des lettres de dénonciation, ce qui est quand même pas très sympathique.
C'est pas formidable.
Il est alors proche hein, des milieux collaborationnistes et du service de sécurité nazi. Il rejoint en 1944 le gouvernement en exil du régime de Vichy, et épisode de sa vie qui lui inspire le roman « D'un château à l'autre » paru en 1957.
Oui, alors ce qui est surprenant, hein, c'est comme un personnage fort en contraste. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que tout ce qu'il est devenu, là, c'est quand même étonnant, après avoir dénoncé, bah, dans Le Voyage au bout de la nuit, il dénonce l'absurdité de la guerre. Il était profondément antimilitariste dans sa jeunesse. C'est vrai que là, on se dit, quelle mouche l'a piqué.
Ben hein. Oui, il a vrillé un peu, là.
Là moins qu'on puisse dire. Et pour la petite histoire, pour amener un peu de légèreté, Céline, c'était le prénom de sa grand-mère maternelle, qui était commerçante, qui tenait une petite échoppe d'antiquités et de dentelles, que d'ailleurs sa propre fille, donc la mère de Céline, avait repris passage Choiseul à Paris. Donc il a grandi là, tu sais, dans un passage couvert, où il pouvait observer plein de gens, et il s'y passait plein de choses. Voilà, voilà.
Bon,
donc
bon.
Le début c'est bien, la fin,
ouais, c'est moins bien. Alors, là, on vous propose une autre lettre. Allez, c'est parti.
Lettre de Stéphane Mallarmé à Henri Casalis, Tournon, le 31 décembre 1865.
Mon bon Henri, bien que, comme dans un rêve, je t'ai pressé la main il y a quelques jours, je ne veux pas laisser passer ce jour de l'an sans que tu reçoives un petit mot, et je détache cette page de l'effrayant volume de ma correspondance, diminué cependant par mon voyage précédent. Que tout ce que tu veux soit à toi, les beaux vers avec les rimes, la douce adorée avec les baisers. Vis dans une ivresse qui nous enivrera à son tour, et que ce chant d'allégresse ait pour base la trouvaille naturelle et quotidienne de tapisseries au perroquet bariolé, d'ivoire jauni et de bois noir de vétusté. Enfin, que sais-je, trouve au fond d'une singulière armoire une sacoche somptueuse qui pétait d'être si amusante. Mais surtout, aimons-nous toujours autant. Maintenant, pourquoi faut-il que je te gronde ? Nous t'avons attendu très tard au réveillon, et lors de chaque coup de sonnette, tous les visages se tournaient vers le mien, attristés de ton absence. Tu négliges trop vraiment ta charmante connaissance des hommes qui dominent l'art que tu as choisi et de tes confrères. On respire parmi eux un air qu'il faut avoir respiré pour être un poète. Que ces mots ne te fassent pas hausser les épaules, je parle d'expérience. Outre que nous aurions eu les délices d'être ensemble 8 heures de suite, c'est-à-dire plus d'une semaine de causeries déchiquetées, et que la rareté de mes apparitions m'eût fait une fête de cette longue réunion. Enfin, je te pardonne, à la faveur de la nouvelle année. Marie, vers laquelle je suis arrivé gelé, j'ai encore si froid, sans parler de l'ennui des cartes, des vœux, de la visite d'un cousin, que je ne pourrais me remettre au travail avant les premiers jours de janvier. Que dis-je ? Marie met sa main avec ma main dans la tienne, et Geneviève, qui prodigue ses baisers aux bergers de Saxe et de Sèvres, en garde quelques-uns à ton attention. Adieu, ton ami Stéphane Mallarmé. L'adresse de Lefébure, arrivée sans encombre, est Villa Delan, ancienne route de Grasse à Cannes, Var. Offre mes vœux de bonne année à tous ceux de mes amis que tu rencontreras. Ne m'oublie pas près de Madame Le Jaune et dis-lui que le remaniement seul d'un poème a retardé l'envoi des autres. Mais elle les recevra. Trop tôt, hélas.
Quel maniement de la langue, hein. On était en train de se dire l'usage des temps, la concordance des temps, on n'est plus trop habitué, hein, à
oui, bah oui, avec les textos maintenant, hein.
À cette musicalité.
Alors Étienne Mallarmé, dit Stéphane Mallarmé, il est né le 18 mars 1842 à Paris et décédé le 9 septembre 1898 à Valvin. Alors, c'est un poète français, il est également enseignant, traducteur, entre autres d'Edgar Poe, pardon, et aussi critique d'art. Il arrive à Paris en 1871 et fréquente alors les auteurs littéraires comme Paul Verlaine, Émile Zola ou encore Auguste de Villiers de l'Isle-Adam et des artistes comme Édouard Manet, qui a peint d'ailleurs son portrait en 1876. Alors, la renommée de Stéphane Mallarmé va se consolider à partir de 1884, quand Paul Verlaine l'inscrit dans sa série des poètes maudits. Il est reconnu comme un maître par les poètes de la jeune génération. Ayant joué un rôle prépondérant dans l'éclosion de la modernité poétique, il est donc considéré comme l'un des plus grands poètes de langue française. Alors, je vous propose maintenant un autre courrier de bonne année, et donc je vous laisse découvrir.
Mon chéri, avez-vous eu un bon Noël, reçu des tas de cartes de vœux? Je n'avais pas réfléchi que si les miens partaient aujourd'hui, vous les recevriez trop tard. Mais vous aurez à temps des souhaits de joyeux nouvel an mêlés à ceux périmés de Noël. Écrivez un autre bon livre qui ravisse la moitié des lecteurs et fasse enrager l'autre moitié. Soyez heureux et gardez-moi une petite place au fond de votre cœur. La nuit de Noël, j'ai organisé chez moi un petit dîner avec Bost, Scipion, Sartre, Olga, Vanda. Foie gras, caviar, pâtisserie, champagne et scotch. Personne ne s'est saoulé. Et nous avons inventé un jeu. Sartre possède un magnétophone, made in Chicago. Bost, lui et moi l'avions dissimulé soigneusement dans la pièce, les autres ignorant tout. L'infortuné Scipion, innocemment, a répondu à mes questions, de rusées questions l'incitant à ouvrir son âme, à parler femme et tout et tout. En fait, il s'est exprimé très plaisamment, comme d'habitude, mais entendre sa propre voix, soudain, est une expérience éprouvante. Tout le monde a ressenti autant de honte que d'abusement quand l'enregistrement a restitué les 1000 sottises que nous avions proférées. Je n'ai pas beaucoup bu, guère dormi non plus, et aujourd'hui j'ai travaillé dur. Terrible brouillard, si épais que de ma fenêtre, je n'aperçois plus Notre-Dame. Conduire avec tous les phares jaunes allumés, c'est dur. Je m'entraîne pourtant tous les dimanches avec bravoure. Tant de bravoure même qu'au boss mourait de peur, car je filais sur les routes glissantes et après tout, je ne sais pas conduire. Je n'ai pas mon permis, mais j'adore jouer à ça. Le premier dimanche, j'ai parcouru 80 miles et 100 le second. Olga accompagnait Bost. On se demande pourquoi. Avec ce temps, on y voit goutte. Ou si on entrevoit un morceau de paysage, il est lugubre. Les environs de Paris, de toute façon, n'offrent guère d'intérêt. Mais elle a si peu à faire de sa vie qu'elle vient pour tuer le temps, la pauvre. Je suppose que la prochaine fois, plus sûre de moi, tout en ne maîtrisant pas davantage le volant, je deviendrai réellement dangereuse. Mais les accidents me flanquent une peur bleue. J'ai assisté récemment à un écrabouillage épouvantable. Je ne conduirai pas en ville d'ici longtemps. Apparemment, un film sortira de la putain respectueuse. On a sélectionné une ravissante interprète, une inconnue. On lui a fait faire un essai en compétition avec une actrice célèbre. Eh bien, cette petite jeune était bien meilleure. Scipion vient d'acheter un château féodal au bord de la mer. Des ruines, mais cette sorte de ruine où on peut vivre en été. Et il a l'intention d'y passer les mois chauds pour travailler sévèrement à un livre sur ses voyages. Boris vient divorce. Olga songe vaguement à chanter dans un club. Elle a une voix, mais pas la santé ni la volonté suffisante pour se lancer dans du nouveau. Sartre et Bost prospèrent. Moi aussi, dans une certaine mesure. La femme laide s'est montrée pénible à notre dernière rencontre. Je suis si patiente avec elle et si indifférente aussi. Chaque soirée que nous passons ensemble, de par mois, reproduit si exactement les précédentes qu'à la fin ça la rend folle et qu'elle tente de susciter quelques drames. Mais avec moi, ça ne marche pas. Elle a beau s'assombrir de plus en plus, ça ne m'ébranle pas. Alors elle rédige de folles épîtres, infiniment plus folles qu'aucune des miennes, auxquelles je ne réponds pas. Bonne et heureuse année, mon gentil, mon doux. Bonne année à Christy et à nos petits amis Koukla et Oli, et à tout le monde. Je pense souvent à eux et à tout le reste. Je vous embrasse très tendrement. Bonne année. Votre Simone.
C'était donc une lettre de Simone de Beauvoir adressée à Nelson Algren à Noël 1951.
Oui, alors c'était en voiture Simone, hein, parce que le permis de conduire, c'était en option.
Bah, elle s'entraînait avant pour passer le permis après, peut-être. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1947 et 1964, Simone de Beauvoir a écrit plus de 300 lettres d'amour à Nelson Algren, son précieux bien-aimé. Elle part de cette relation passionnelle, d'ailleurs, dans son roman « Les Mandarins », qui est paru en 1954. Alors, Nelson Algren, qu'elle rencontre lors d'un voyage à New York, est un romancier américain qui a écrit notamment « L'homme au bras d'or », porté à l'écran par Otto Preminger, avec Frank Sinatra, Kim Novak et Eleanor Parker. Livre traduit en français par Boris Vian.
Et oui, et « L'homme au bras d'or », alors la musique était de Elmer Bernstein. Pourquoi je le cite ? Alors, rien à voir avec Leonard Bernstein, qui a écrit la musique de West Side Story, mais Elmer Bernstein, c'était un des premiers à utiliser l'usage d'une musique de jazz au cinéma. C'était un peu novateur, et d'ailleurs, c'était un peu le premier film hollywoodien qui parlait ouvertement de la drogue, hein, l'homme au bras d'or, et des problèmes qu'elle engendre, les problèmes de sevrage, le fameux Cold Turkey, qui est superbement interprété par Sinatra, qu'on voit avoir des séries de tremblements, des accès de fureur, c'est terrible ce film-là.
Alors, pour revenir à la lettre de Simone de Beauvoir, voilà, on va juste vous parler un petit peu des invités, parce qu'elle parle de personnes dont on ne connaît pas tellement maintenant.
Alors, on ne les a pas rencontrées, en tout cas.
Donc, les invités du dîner sont entre autres Jean-Jacques Bost, qui est un ancien élève de Sartre, qui est le mari d'Olga, et qui fut l'amant aussi de Simone pendant une certaine période. Alors, quant à Olga Kazakiewicz, c'est une actrice de théâtre qui, pendant quelques années, fit ménage à trois, en fait, avec Sartre et Simone. Voilà, tout le monde se retrouve, c'est bien. quant à Vanda, bien, c'est la sœur d'Olga, qui est également actrice sous le nom de Marie-Olivier et qui aura d'ailleurs un rôle secondaire dans le film « La putain respectueuse ». Quant à Georges Sipion, il est journaliste, c'est un ami du couple. Et il y a bien sûr Jean-Paul Sartre, compagnon de Simone de Beauvoir et auteur de La putain respectueuse.
Bon, tu nous feras un petit arbre généalogique.
Donc voilà, donc elle parle d'autres personnes aussi, mais bon, on ne peut pas, voilà, tout, voilà. Alors, comme... sachant qu'elle écrit toutes les lettres en anglais, hein, puisque Al Green il parlait pas du tout 300, français, hein. Voilà, et donc toute sa correspondance était en anglais. Donc, puisque on est en anglais là, je vous propose d'écouter une petite chanson de Noël,
ça manquait.
Une petite pause musicale, et justement on parlait de Frank Sinatra, donc on va vous passer une petite chanson qui s'appelle Have Yourself a Merry Little Christmas.
The Voice.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Make the Yuletide gay.
From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, yourself a merry little Christmas now.
Here we are as in olden days, happy golden days of yore.
The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
on aurait aimé faire partie des choristes.
Au moins ça.
Au moins.
Donc maintenant, eh bien, on va passer. Donc c'est plus là, c'est pas une lettre, mais ce sont des souvenirs de Noël écrits par Colette. Donc c'est extrait d'un recueil de 22 textes, hein, sur le thème de Noël, et que Colette a écrit pour différentes qui sont rassemblés ici, et qu'elle a écrit pour différentes revues, notamment dans Marie Claire et dans d'autres journaux aussi. Voilà, donc ce texte s'intitule fort à propos, eh bien, je n'ai pas de souvenir de Noël.
Un peu étonnamment. Hein.
Je n'ai pas de souvenir de Noël. Enfant d'un pays mal pensant, où la messe de minuit rassemblait peu de fidèles, je mettais mes sabots dans l'âtre, la nuit de Noël, mais c'était pour les sécher dans la cendre, comme les autres nuits, et les trouver tièdes le lendemain. Mon village ignorait les massacres de sapins. Ce n'est pas que je m'élève contre l'exploitation annuelle des sapinières. Le sapin croît assez vite, se remplace avec facilité. Je fais, entre lui et, par exemple, l'hêtre, l'orme et les derniers alisiers gracieux, les cormiers, la même différence qu'entre la volaille de parquet et le gibier sauvage. Et rien qu'à cause de son fort arôme, vert, amer, chaste, qui franchit une fois dans nos murs, je verse sur des bûcherons d'occasion une exceptionnelle clémence. En bas, dans le hall de l'hôtel où je me suis agencé un coin provincial, on dresse tous les ans un grand sapin noir chargé de lumière et de canetilles. Sa résine, qui çà et là pleure, dilate dans l'air chauffé des baumes si vigoureux qu'ils m'arrêtent au passage. « Qui frappe? Qui entre ici ?» s'écrie à peu près Siglin dans « La Walkyrie » au choc du printemps qui renverse les portes. C'est l'hiver qui fait irruption chez moi, dans son grand costume allégorique de sapin. Ce n'est pas Noël. L'hiver rigide, tout rameau étalé, immobile sous le vent, mais déjà menacé par janvier le précurseur. Quand je grattais la neige à ses pieds, autrefois, je trouvais la rosace naissance de la prime vert, et le rouge cordonné qui disjoint, vivant, les deux cotylédons de quelques glands égarés çà et là par les écureuils. Non, je n'ai pas de Noël dans mes souvenirs lointains. Si le Hou, le Guy ont eu leur place au dîner des 1er janvier de mon enfance, ils s'y faisaient parure et non symbole, mêlés à la verdure plumeuse du Tuya. Après, j'ai eu les Noëls des autres, à l'âge où certaines fièvres ne sont plus contagieuses. J'ai suspendu dans les sapins les bougies minuscules, les astres, les noix d'or. J'étais dans les coulisses de la fête. Une nuit de Noël, il y a quelques années, j'étais à Saint-Tropez. Une nuit d'étoiles dévoilées qui palpitait largement au-dessus de la brume tiède. L'église refoulée jusque dans la rue, son trop-plein d'ouailles provençales bavardes, ensemble irrévérencieuses et attachées au rite, et de beaux bergers qui portaient dans leurs bras des agneaux de lait. Sur le port, une brise molle comme en mai pour chasser l'odeur du pain chaud, de l'ail et du boudin noir. Une petite fille très jolie, assise sur un banc, seule, enchantée d'insomnie, improvisait à mi-voix un chant ravissant, invocation de pur paganisme dédiée à une fête chrétienne, sur deux mots répétés. « Viens, Noël, Noël, viens, il te faut venir, Noël, viens !» Le vin rose des vignes salines, le pain provençal aristocratique, blanc de croûte et blanc de mie, l'anchois est croisé dans l'huile, et la pissaladière, bien épicée. Je me souviens aussi que sur notre table, les capsules des eucalyptus s'entrouvraient sur leur trésor d'étamine. Y avait-il, dans la douceur humide de l'air, la modeste frérie, de quoi gonfler les cœurs? Le mien se trouble encore en y songeant. Je ne crois pas qu'obscur dans le passé, les chrétiens dont je sors m'avaient préparé à tressaillir, cette nuit-là, d'une grâce inattendue. Je pense seulement qu'il s'agit d'une nuit de Provence, et que là-bas, les nuits sont les rivales des jours.
Oui, pour quelqu'un qui titrait « Je n'ai pas de souvenir de Noël », finalement, elle en a beaucoup. Alors moi, j'ai un petit extrait que j'ai tiré d'un autre texte, « Le voyage égoïste » qui précède ce qu'on vient d'entendre, c'est de 1928, où je pense qu'elle fait référence à sa propre enfance. « Qu'il est chaud à mon cœur encore ce souvenir d'une fête glacée, sans autre cadeau que quelques bonbons, des mandarines en chemise d'argent, un livre. Comment le transmettre, ce bonheur sans éclat, ce bonheur à flamme sourde, à nos enfants d'aujourd'hui? Qui donc les a fait avides et blasés comme ils sont? la vie nouvelle, l'âpre époque et nous-mêmes. Voilà, déjà, elle trouvait que les enfants étaient trop couverts de cadeaux.
Donc maintenant, on va passer à une lettre de nouveau. Et donc là, c'est une lettre d'Émile Zola. Alors, allez, vous allez l'écouter.
Lettre d'Émile Zola à Jeanne Rosereau du 31 décembre 1893, à Meudon, le dimanche.
Chère femme bien-aimée, je voudrais avoir des bras très longs, pour aller vous chercher là-bas et vous embrasser tous les trois aujourd'hui. Bonne année, mes trois petits-enfants. Bonne année, mes trois mignons. Et que la vie soit toujours douce et bonne pour vous. Je fais ce que je peux pour que vous viviez tranquille, à l'écart des chagrins, sans vous douter qu'il y a tant d'autres qui souffrent. Et ma seule récompense est quand je vois que vous vous portez bien et que vous riez de bon cœur. Nous voici encore séparés, chère femme bien-aimée. Mais ce ne sera heureusement pas pour longtemps. Je suis ici dans une solitude absolue. Aucun ami ne doit venir me voir, ce dont je suis ravi. Car la seule joie de cette courte absence est le grand repos que je vais avoir. Ma vie de travail à Paris finit par m'étourdir un peu, par me casser la tête. Et c'est si bon de ne plus penser à rien, ou du moins de me recueillir un peu pour penser en paix à mes affaires de cerveau et de cœur. Je reste donc dans mon coin toute la journée. Je réfléchis à tous mes grands travaux et je rêve surtout à vous trois. Je me demande comment je pourrais bien vous rendre plus heureux encore que vous n'êtes. Les 4 jours que j'ai à vivre ici vont de la sorte s'écouler bien rapidement. Vous autres non plus, vous ne vous ennuierez pas trop. Il y aura les petits cadeaux qui vous occuperont bien un jour. Puis, Denise donnera de grands repas à ses poupées. Jacques fera de grands voyages avec les chaises. Et il n'y aura que toi, chère femme bien-aimée, qui ne t'amusera guère. Sors le plus possible. Fais de l'exercice pour le bien porter et devenir une grande belle dame bien solide. J'ai tâché de voir votre chère maison, mais elle est bien dans le brouillard. Décidément, l'hiver est une saison impossible à la campagne quand on n'y est pas bien installé. Moi, j'ai très chaud. Je ne sais même pas s'il fait froid dehors. Mais vous auriez été glacé par l'humidité à Cheverchemont. Ce n'est plus le beau paysage d'été avec la Seine si claire, les arbres si verdoyants. On dirait que de la cendre est tombée sur tout cela et la rivière a la couleur du plomb. Ah, qu'il ferait bon d'être tous ensemble, dans quelque pays du soleil où l'on aurait chaud et où l'on pourrait oublier toutes les misères. Bonne année, chère femme bien-aimée et cher petit mignon. À toi, je te souhaite de te bien porter d'abord parce que si tu tombais malade, ce serait la fin du courage pour moi. Et je ne suis déjà plus si brave. Il faut que tu manges bien, que tu dormes bien, que tu marches le plus possible, que tu n'aies jamais le moindre petit souci. Ensuite, je te souhaite tout ce que tu as déjà, une bonne petite tête raisonnable, de beaux yeux tendres, une belle tresse qui sent bon pour te coucher le soir et de m'aimer bien et de toujours nous aimer comme nous le faisons depuis 5 ans. À Denise, je souhaite de toujours pousser comme une belle petite fille, d'être bientôt une jeune fille bien élevée et qui fera honneur à sa maman et à son papa, de ne plus casser ses joujoux, de vivre comme une vraie petite reine dans sa belle chambre. À Jacques, je souhaite d'être vite le gros et beau garçon qu'il promet d'être, de ne pas trop faire la soupe dans sa tasse de thé, de demander à faire pipi quand il en a besoin, enfin d'être un bon et aimable petit homme. Et à moi, mes trois chéris, je me souhaite de vivre longtemps pour avoir la joie de vous garder, de t'aimer longtemps encore, chère femme, de vous voir grandir, mes chers mignons, d'avoir le temps de voir mon Jacques un homme et de marier ma Denise à un brave garçon. Enfin, il faut que pendant 20 ans encore, je puisse vous dire comme aujourd'hui, bonne année, mes trois enfants chéris, et aimez-moi bien, et aimons-nous bien, et tâchons que ce grand amour nous console de toutes les misères de l'existence. Mes bras sont devenus si longs, que je vous tiens tous les trois, et que je vous sers de toute ma force sur mon cœur.
Voilà,
bon, grand-papa Zola, c'est, voilà. C'est-à-dire qu'il parle à son amante comme à, comme enfant. À une enfant. Il avait 30 ans de moins que lui, hein, presque.
Bah oui, oui, oui. Donc, bon. Ça y fait quand même, voilà. Donc Émile Zola, c'est un écrivain, journaliste français, donc est né en 1840. Et il est considéré comme le chef de file du naturalisme. Et c'est l'un des romanciers français les plus populaires et les plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier. Alors en fait, en 1888, sa femme va engager Jeanne Rosereau, une jeune femme de 21 ans, pour
les travaux de la maison.
À leur service, quoi, voilà. Et en fait, le romancier va en tomber immédiatement éperdument amoureux. Il va concevoir pour elle un amour d'autant plus fort qu'elle va quand même lui donner les deux enfants qu'il n'a jamais pu avoir avec sa femme Alexandrine.
Eh oui.
Il va y avoir donc Denise, née en 89, et Jacques, née en 1891. Et pour... voilà. Pour autant, Zola va pas abandonner sa femme, hein, il va voilà. Et l'idylle va demeurer secrète quand même pendant 3 ans. Et il va donc installer sa maîtresse dans un appartement parisien et il lui loue même une maison, une villégiature à Verneuil, à proximité de Médan, où il se rend à vélo. Et bien sûr, Alexandrine Zola va apprendre l'infidélité de son épouse, et de son époux, pardon, et l'existence des deux enfants par le biais d'une lettre anonyme. Ah, les lettres. Ah,
les lettres.
Alors, évidemment, il va en passer un moment difficile pour le couple. Mais cette révélation va quand même être un soulagement pour le romancier, parce que bon, c'est vrai que c'est pas facile de garder le secret.
Bah, une double vie, ça doit pas être facile.
Donc Alexandrine va se résigner à cette situation et la femme de Zola va même s'occuper des enfants en leur offrant des présents, va les promener de temps en temps, elle va reporter sur eux un amour maternel dont elle a été privée. Et puis d'ailleurs, après la mort de l'écrivain, elle fera reconnaître les deux enfants afin qu'ils puissent porter le nom de leur père. Donc, oui, ce qui était quand même
tout à fait honorable. Voilà. Et en 1908, quand il entre au Panthéon, Zola, les deux femmes sont présentes. Donc voilà.
Alors bien sûr, impossible de finir une émission Noël sans une lettre du Père Noël.
De qui?
Ah voilà. Alors on a toujours recours donc à Tolkien. Et donc, on vous laisse écouter la lettre. Hein.
Maison de la Falaise, sommet du Mont, près du pôle Nord, mercredi 21 décembre 1927.
Chers vous tous, vous semblez de plus en plus nombreux d'une année sur l'autre. Je deviens de plus en plus pauvre. J'espère néanmoins être parvenu à vous apporter, à vous tous, quelque chose que vous désiriez, même s'il n'y a pas tout ce que vous m'aviez demandé. Michael et Christopher, cette année, je n'ai pas eu de nouvelles de John. Je suppose qu'il devient trop grand et que bientôt il ne suspendra même plus son bas de laine. Il fait un tel froid au pôle Nord depuis quelque temps que l'ours du pôle Nord passe le plus clair de son temps à dormir et est moins utile ce Noël-ci que d'habitude.
Ici, en hiver, tout le monde dort, la plupart du temps, surtout le Père Noël.
Le pôle Nord est devenu plus froid que tout ce qui existe de froid. Et quand l'ours du pôle Nord y a posé le nez, cela lui a arraché la peau. Maintenant, il a un bandage en flanelle rouge. Pourquoi a-t-il fait cela? Je ne sais pas. Mais il met toujours son nez là où il ne devrait pas. Dans mes placards, par exemple.
Ah, c'est parce que j'ai faim.
Il fait aussi très sombre par ici depuis le début de l'hiver. On n'a pas vu le soleil, bien sûr, depuis 3 mois, mais il n'y a pas d'aurore boréale cette année. Vous vous souvenez de l'horrible accident de l'année dernière? Il n'y aura aucune aurore jusqu'à la fin de 1928. L'ours du pôle Nord a demandé à sa cousine et amie lointaine, la grande ours, de briller plus fort pour nous. Et cette semaine, j'ai engagé une comète pour m'éclairer lorsque je fais mes paquets. Mais cela ne marche pas aussi bien. L'ours du pôle Nord n'a pas vraiment été plus raisonnable cette année.
J'ai été parfaitement raisonnable et j'ai appris à écrire avec une plume dans ma bouche au lieu d'un pinceau.
Hier, il roulait en boule le bonhomme de neige dans le jardin, lorsqu'il l'a poussé par-dessus le bord de la falaise, en sorte qu'il est tombé dans mon traîneau, en bas, et il a brisé pas mal de choses, dont sa personne. J'ai utilisé une partie de ce qui restait de lui pour faire mon dessin en blanc. Nous allons devoir nous fabriquer un nouveau jardinier quand nous serons moins occupés. L'homme dans la lune m'a rendu visite l'autre jour, il y a exactement 15 jours. Il le fait souvent à cette date quand il se sent seul sur la lune et on lui prépare un joli petit gâteau aux prunes. Il aime tant ce qui est fourré aux prunes. Ses mains étaient froides comme à l'ordinaire et l'ours du pôle Nord l'a fait jouer aux Snapdragons pour les réchauffer. Bien sûr, il s'est brûlé et s'est léché les doigts. Et comme il appréciait le cognac, l'ours lui en a servi beaucoup plus et l'homme s'est endormi rapidement sur le divan. Ensuite, je suis descendu dans les caves fabriquer des pétards. Il est tombé du divan sous lequel le méchant ours l'a poussé. Il y a complètement oublié. Il ne doit jamais s'éloigner de la lune une nuit entière. Mais ce fut le cas cette fois-là.
On ne m'a jamais demandé jusqu'ici de m'occuper de l'homme dans la lune. J'ai été très gentil avec lui et il était très à l'aise sous le divan.
Soudain, le bonhomme de neige, il n'était pas encore en mille morceaux, est sorti du jardin en courant. C'était le lendemain après l'heure du thé et a dit que la lune disparaissait. Les dragons étaient sortis et crachaient d'horribles fumées et brouillards. Nous avons roulé l'homme dans la lune, de dessous le canapé, et l'avons réveillé. Il a filé à toute allure, mais il lui a fallu une éternité pour tout remettre en ordre. Je crois qu'il a tout simplement dû utiliser sa magie, la plus terriblement froide, avant de pouvoir repousser les dragons jusque dans leurs trous. Et c'est pourquoi il fait maintenant si froid ici. L'ours du pôle se contente de rire quand je lui dis que c'est de sa faute. Il se roule en boule sur la carpette, devant la cheminée, et ne fait rien d'autre que ronfler. Mes messagers m'ont dit que quelqu'un venu d'Islande séjourne chez vous. Ce n'est pas si loin, d'où je vis, et il y fait presque aussi froid. Là-bas, les gens ne suspendent pas de bas, et j'y passe généralement à toute vitesse, bien que j'y fasse parfois une halte pour déposer une chose ou deux pour leurs arbres de Noël qui sont très plaisants. Mon trajet habituel me mène vers le sud en passant par la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, puis je reviens de nouveau par l'Allemagne, le nord de la France et la Belgique jusqu'en Angleterre. En rentrant chez moi, je survole la mer, parfois l'Islande, et je peux voir les lueurs tremblotantes s'évanouir dans les vallées entre les montagnes. Mais je passe dans cette région aussi vite que le galop de mes rennes peut m'emporter. Ils disent toujours qu'ils ont peur qu'un volcan ou qu'un geyser n'entre en éruption sous eux. C'est tout. Je vous ai écrit une très longue lettre cette année, comme il n'y avait rien à dessiner en dehors de l'obscurité, de la neige et des étoiles. Pensées affectueuses à tous et beaucoup de joie pour l'année prochaine. Votre Père Noël qui vous aime.
Et voilà, j'espère que d'autres enfants auront des lettres de Père Noël.
Bah oui, c'était une bonne idée. Hein. Il se mettait dans la peau du Père Noël. Il a écrit ses lettres, il les a superbement illustrées entre 1920 et 1942. J'étais étonné de voir, tu vois, qu'il avait fait
ça a duré.
Œuvre si longtemps. Et je rappelle une fois de plus que ces fameux dessins illustratifs ont été retranscrits sous la forme de 14 tapisseries monumentales, géantes, que j'ai pu voir, moi, à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, dans la Creuse. C'était magnifique et ça résistait bien à l'agrandissement. Vraiment des superbes tableaux.
Très bien.
Vous avez de la chance quand même, les enfants et petits-enfants, je pense.
Donc, petit rappel hein, sur John Ronald Reuel Tolkien, donc écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Voilà, donc c'est lui qui a écrit, bien sûr, le Hobbit et aussi le Seigneur des Anneaux. Alors, d'ailleurs, il va mettre une dizaine d'années pour écrire Le Seigneur des Anneaux. Et c'est un roman de plus de 1000 pages qui est publié en 3 volumes entre 1954 et 1955, qui va rencontrer un succès phénoménal à sa publication et qui va même faire l'objet comme d'une adaptation radiophonique en 1955.
Oui, c'est toujours lu aujourd'hui, je pense.
Bah, oui, Et donc, aux États-Unis, son roman devient un best-seller lorsque l'éditeur S-Book le publie au format de poche sans autorisation. Alors, évidemment, une querelle judiciaire s'ensuit qui va offrir une publicité supplémentaire au nom de Tolkien. Et il écrit dans une lettre de 1972, il déplore être devenu un objet de culte, mais admet que même le nez d'une idole très modeste ne peut demeurer totalement insensible au chatouillement de la douce odeur de l'encens.
Il avait beaucoup d'humour, ce Tolkien.
Donc voilà. Bah oui, parce que du coup, ils en ont fait des films.
Oui,
aussi,
ça
des
a été.
Films,
et puis ça reste.
Ça. Donc, du coup, c'est.
Je crois que ça reste très,
un
très lu.
C'est énorme.
Bon, tout à l'heure, tu parlais. Il parlait du jeu du Snapdragons. Alors, ce sont parfois les enfants qui doivent attraper des raisins secs dans du cognac brûlant. Donc, on déconseille quand même aux auditeurs de pratiquer ce jeu.
Avec les enfants, en tout cas. Pour les adultes, les voilà. Mais voilà. C'est vrai que c'est sûr que ça doit réchauffer les doigts. Hein.
Oui, pas que les doigts.
Eh bien, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouvera.
On devrait se retrouver, en 2025.
2025, voilà. Alors, à très bientôt.
À bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.